par où commencer ? dit Bowden, dont l'inquiétude transparaissait à travers le nuage de fumée tourbillonnante. « Voyons, » dit gentiment Ed Caoutchouc, « le simple fait que vous soyez ici à la place de ses parents me met déjà sur la piste, vous savez. »
« Oui, je suppose. Très bien. »
Il joignit les mains. La camelle pointait entre le deuxième et le troisième doigt de sa main droite. Puis il s'assit bien droit et releva le menton. Il y avait quelque chose de prussien dans sa prestance, pensa le conseiller. Quelque chose qui lui rappelait les films de guerre qu'il avait vus quand il était petit.
« Mon fils et ma belle-fille ont des problèmes de couple, »
dit Bowden en articulant chaque syllabe.
« Des problèmes assez graves, me semble-t-il. »
Ses yeux, des yeux de vieillard étonnamment brillants, observèrent Ed Caoutchouc qui ouvrit le dossier posé devant lui sur le sous-main. Le dossier contenait quelques pages, pas beaucoup. « Et vous pensez que ces problèmes ont une influence sur le travail scolaire de Todd ?» Bowden se pencha en avant d'une vingtaine de centimètres. Ses yeux bleus ne lâchèrent pas un instant les yeux bruns du conseiller. Il y eut un silence chargé, très lourd, et enfin Bowden lâcha « La mer boit ». Il reprit la pose précédente, droit comme un i.
« Oh !» dit Ed Caoutchouc.
« Oui, » répondit Bowden avec un sourire crispé. « Le gamin m'a raconté qu'en rentrant à la maison, deux fois, il l'a trouvé écroulé sur la table de la cuisine. Comme il connaît la réaction de mon fils par rapport à la boisson, il s'est arrangé pour préparer le dîner et lui faire avaler suffisamment de café noir pour qu'elle soit réveillée au retour de Richard.
« Mauvais, » dit Ed Caoutchouc, qui avait entendu bien pire. Des mères héroïnomanes, des pères saisis par l'envie de baiser leur fille ou leur fils. « Madame Bowden a-t-elle pensé à faire appel à l'aide de spécialistes ?»«
Le gamin a essayé de lui dire que ce serait le meilleur moyen. Mais je crois qu'elle a honte. » Si elle avait un peu de temps. »
Il fit un geste et sa cigarette lâcha un rond de fumée qui se dissout dans l'air.
« Vous comprenez ?»«
Oui, bien sûr. » Ed Caoutchouc hocha la tête en admirant à part lui l'élégance du rond de fumée.
« Votre fils, le père de Todd,
il n'est pas irréprochable, »
dit Bowden, la voix dure.
« Les heures supplémentaires, les repas manqués, les soirs où il doit brusquement s'absenter. Monsieur French, c'est moi qui vous le dis, il a épousé son travail avant d'épouser Monica. On m'a élevé dans l'idée que la famille passe avant tout, pas vous ?»«
Certainement, » répondit le conseiller de tout son cœur. Son père était veilleur de nuit dans un grand magasin de Los Angeles et il ne le voyait que pendant les week-ends et les vacances.
« Ce qui est une autre façon de voir les choses, » dit Bowden.
Le conseiller approuva de la tête et réfléchit un instant. « Et votre fils, Monsieur Bowden ?» Il baissa les yeux vers le dossier.
« Harold, l'oncle de Todd. »
« Harry et Deborah habitent maintenant dans le Minnesota, »
dit le vieil homme, parfaitement sincère.
Il a trouvé un emploi à la faculté de médecine. Il aurait beaucoup de mal à le quitter et il serait injuste de le lui demander.
Son expression se fit vertueuse.
Harry et sa femme sont très heureux en ménage.
Je vois. Ed Caoutchouc regarda encore une fois le dossier avant de le fermer. Monsieur Bowden, j'apprécie votre franchise. Moi-même, je vais être aussi franc.
« Merci, »
dit le vieil homme, très raide.
« En tant que conseiller, nous n'avons pas les moyens d'en faire autant que nous le souhaiterions. Il y a ici 6 conseillers. Chacun est chargé d'une centaine d'élèves. Le dernier arrivé de mes collègues, Hepburn, en a 115. À notre époque, dans notre société, tous les enfants ont besoin d'aide. »«
Bien sûr. »
Bowden écrasa brutalement sa cigarette dans le cendrier et recroisa les mains. « Quelquefois, nous tombons sur des choses graves. Les problèmes de drogue ou les problèmes familiaux sont les plus courants. En tout cas, Todd n'a pas touché au speed,
à la mescaline ou au LSD.
Dieu nous en garde.
Parfois, c'est simple, nous n'y pouvons rien. C'est déprimant, mais c'est la vie. D'habitude, les premiers à être recrachés par la machine dont nous avons la charge sont les trublions, les enfants fermés à toute communication, ceux pour lesquels nous n'essayons même pas. Ce ne sont que des organismes à sang chaud qui attendent d'être éjectés à cause de leurs mauvais résultats, ou d'être assez vieux pour aller s'engager dans l'armée sans l'autorisation de leurs parents, travailler à la station de lavage rapide ou épouser leur petite amie. Vous comprenez ? Parlons net. Notre système n'est pas tout à fait ce qu'il prétend être.
J'apprécie votre franchise.
Mais quand on voit la machine se mettre à broyer un gosse comme Todd, ça fait mal. Il a obtenu 18 de moyenne l'année dernière, ce qui le met dans la première tranche de 5%. Il a le don de l'écriture, ce qui est assez rare dans une génération où les gosses croient que la culture commence en face de la TV et prend fin dans le cinéma le plus proche. J'ai parlé avec le professeur qui a eu Todd pour élève l'année dernière. Elle m'a dit que Todd a donné la meilleure composition qu'elle a vue en 20 ans d'enseignement. C'était sur les camps de la mort allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle lui a mis le seul A+ qu'elle ait jamais donné à un élève.
« Je l'ai lu, » dit Bowden. « C'était très bien. »
Il a aussi fait preuve d'une capacité au-dessus de la moyenne en sciences humaines et sociales. Et s'il ne va pas être un des grands génies mathématiques du siècle, les notes que j'ai indiquent qu'il a fait de son mieux. Jusqu'à cette année. En un mot, voilà toute l'histoire.
Oui.
Je serais vraiment scié de voir Todd se faire liquider de cette façon, Monsieur Bowden. Quant aux cours d'été, bon, j'ai dit que je serais franc. Les cours d'été font souvent plus de mal que de bien à un gosse comme Todd. Habituellement, la session d'été du premier cycle ressemble à un zoo, avec des babouins et des hyènes, plus une bonne troupe de fossiles. Todd serait en mauvaise compagnie.
Certes.
Alors, allons jusqu'au bout, non? Je proposerai une série de rendez-vous au centre d'orientation pour Monsieur et Madame Bowden. Tout cela resterait confidentiel, bien sûr. C'est un excellent ami à moi, Harry Ackerman, qui s'occupe du centre. Et je ne pense pas que ce soit Todd qui devrait le leur proposer, mais plutôt vous-même. Il eut un large sourire. Nous pouvons peut-être ramener tout le monde sur le droit chemin en juin. Ce n'est pas impossible. Mais la proposition parut alarmer Bowden.
Je crois qu'ils en voudraient aux gamins si je leur soumettais cette idée en ce moment, dit-il. La situation est très délicate. Les choses peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. Le gamin m'a promis de faire des efforts pour travailler. Il est très inquiet à cause de ses mauvaises notes.
Il eut un sourire pincé, un sourire qu'Ed Caoutchouc fut incapable d'interpréter.
Plus inquiet que vous ne le pensez.
Mais
il m'en voudrait à moi,
ajouta immédiatement Bowden.
Dieu sait qu'il m'en voudrait. Monica trouve déjà que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. J'essaye de ne pas le faire, mais vous voyez la situation. Il me semble qu'il vaut mieux laisser faire, pour l'instant.
Sur ce sujet, j'ai pas mal d'expérience, affirma le conseiller. Il croisa les mains sur le dossier Bowden et regarda le vieil homme d'un air sérieux. Je pense vraiment qu'une réorientation conjugale s'impose dans ce cas. Comprenez bien que mon intérêt pour les problèmes de votre fils et de votre belle-fille se borne aux effets qu'ils ont sur Todd. Et actuellement, ils ont un effet certain.
Laissez-moi vous faire une contre-proposition. Vous avez, me semble-t-il, un système pour prévenir les parents en cas de mauvaise note.
Oui, répondit Ed Caoutchouc avec prudence. Une carte EPS, évaluation des progrès scolaires. Les gosses, naturellement, appellent ça des colles. Ils les reçoivent seulement quand leur moyenne dans une matière tombe en dessous de 10. En d'autres termes, nous donnons des EPS aux gosses qui obtiennent un D ou un F dans telle ou telle matière.
Très bien, dit Bowden. Alors voici ce que je suggère. Si le gamin reçoit une de ces cartes, une seule. »
Il leva un doigt noueux.
« Je parlerai moi-même à mon fils et à sa femme de votre proposition. J'irai même plus loin, »
dit-il avec une pointe d'accent.
« Si le gamin reçoit une de vos colles en avril... »
« En fait, nous les envoyons au mois de mai. »
« Oui, s'il en reçoit une à ce moment-là, je vous garantis qu'ils accepteront cette proposition d'orientation. Ils s'inquiètent pour leur fils, Monsieur French. » Mais actuellement, ils sont tellement pris par leurs propres problèmes que... »
Il haussa les épaules.
« Je comprends. »
« Alors, donnons-leur ce délai pour les résoudre. Se sortir d'affaires en prenant le taureau par les cornes, c'est bien américain, n'est-ce pas ?»«
Oui, je suppose que oui, »
répondit Ed Caoutchouc après avoir réfléchi un instant et jeter un rapide coup d'œil sur la pendule. Il se rappelait soudain qu'il avait un autre rendez-vous dans 5 minutes. « J'accepte. » Il se leva, imité par Bowden. Ils se serrèrent la main et cette fois encore, le conseiller ménagea soigneusement l'arthrite du vieux beau. « Néanmoins, en toute franchise, je dois vous dire qu'il y a très peu d'élèves capables de se sortir d'un plongeon de 4 mois en 4 semaines de rattrapage. » Il y a énormément de terrain à regagner. Énormément. Je crains que vous n'ayez à tenir votre promesse, Monsieur Bowden. »
Le vieil homme eut encore son sourire étrange, pincé.
Vraiment.
Il ne dit rien de plus. Tout au long de cette entrevue, quelque chose avait tracassé Ed Caoutchouc, et il réussit à mettre le doigt dessus en déjeunant à la cantine. Plus d'une heure après que Lord Peter fut reparti, son parapluie proprement roulé sous son bras. Ils avaient parlé pendant au moins 1/4 d'heure, plutôt 20 minutes, et ne se rappelaient pas que le grand-père eût prononcé une seule fois le nom de son petit-fils. Todd, essoufflé, remonta en pédalant l'allée de chez Doucander et posa le vélo sur sa béquille. L'école ne l'avait libéré qu'un 1/4 d'heure plus tôt. Il franchit les marches d'un bond, ouvrit avec sa clé et enfila le couloir jusqu'à la cuisine ensoleillée. Son visage ressemblait à un ciel où se serait mêlé un soleil plein d'espoir et des nuages de mauvais augure. Il resta un moment dans l'embrasure de la porte, le ventre noué, la gorge serrée, regardant Doucander se balancer avec une tasse de bourbon sur les genoux. Il avait gardé son beau costume, mais desserré sa cravate et défait son bouton de colle. Impassible, ses yeux de lézard mi-clos, il regarda le garçon.
« Eh bien ?»
réussit enfin à dire Todd. Doucander fit durer le suspense quelques instants de plus, qui parurent durer 10 ans à Todd. Puis, délibérément, il posa sa tasse sur la table, près de la bouteille d'Ancient Age.
« L'imbécile a tout avalé !»
Todd relâcha son souffle avec un grand « youpi » de soulagement. Avant qu'il ait pu placer un mot, Doucander ajouta
« Il voulait que tes pauvres parents pleins de soucis aillent suivre des séances de réorientation conjugale en ville, chez un de ses amis. Et il a vraiment insisté. »«
Mon Dieu! Qu'avez-vous? Comment vous en êtes-vous sorti ?»«
J'ai dû penser très vite, » répondit le vieil homme. « Un de mes talents, comme la petite fille dans l'histoire de Saki, c'est d'improviser sur le moment. » Je lui ai promis que tes parents iraient aux séances si tu recevais une seule des colles qu'ils envoient au mois de mai. »
Todd devint pâle comme un linge.
« Vous savez quoi ?»
Il criait presque.
« J'ai déjà loupé 2 interrogations en algèbre et 1 en histoire depuis le début des notations. »
Il fit plusieurs pas en avant, son visage blême brillant de sueur.
« Cet après-midi, il y avait un oral de français et je l'ai loupé aussi. Je le sais. » Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à ce foutu Ed Caoutchouc, à me demander si vous aviez réussi à vous occuper de lui. Vous vous en êtes occupé, c'est sûr, »
dit-il d'un ton amer.
« Pas une seule colle. J'en aurais probablement 5 ou 6. »
« C'est le mieux que j'ai pu faire sans éveiller ses soupçons. Ce French, tout imbécile qu'il est, ne fait que son travail. Maintenant, tu vas faire le tien. »
« Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Todd avait le visage déformé par la rage.
« Tu vas travailler. Pendant les 4 prochaines semaines, tu vas travailler plus dur que tu ne l'as jamais fait de ta vie. Par-dessus le marché, lundi, tu vas aller voir tes professeurs et t'excuser de tes mauvais résultats jusqu'à présent. Tu vas... »«
C'est impossible. Vous n'y êtes pas, mec. C'est impossible. J'ai au moins 5 semaines de retard en sciences et en histoire, plutôt 10 en algèbre. »
« Il n'empêche, »
dit Doucender en se reversant du bourbon.
« Vous vous croyez très malin, n'est-ce pas ?»
cria Todd.
« Eh bien, vous me donnerez plus d'ordres. L'époque où vous me donniez des ordres est passée depuis longtemps. Vous pigez ?»
Soudain, il baissa la voix.
« Ces temps-ci, vous n'avez rien de plus dangereux dans la maison que de l'insecticide. Vous n'êtes plus rien qu'un vieux débris qui pète comme une boule puante quand il mange un taco. Je parie même que vous pissez au lit. »«
Écoute-moi, morveux. »
dit tranquillement Doucender. Todd releva la tête avec colère.
« Jusqu'à aujourd'hui, »
dit le vieil homme en choisissant ses mots,
« il t'était possible, tout juste possible, de pouvoir me dénoncer en t'en sortant sans dommage. Je ne pense pas que tu en aurais été capable, étant donné l'état actuel de tes nerfs, mais peu importe. Techniquement, c'était possible. » Mais maintenant, les choses ont changé. Aujourd'hui, je me suis fait passer pour ton grand-père, un certain Victor Bowden. Personne n'aura le moindre doute. Je ne peux l'avoir fait qu'avec ta... Quel est ce mot ? Ta connivence. Si la mèche est éventée, gamin, tu auras plus mauvaise mine que jamais. Et tu n'auras aucun moyen de te défendre. J'en ai pris soin tout à l'heure.
Je voudrais, tu voudrais, tu voudrais,
rugit Doucender.
Peu importe ce que tu voudrais me donne envie de vomir. Ce que tu voudrais n'est qu'un petit tas de crottes de chien dans le ruisseau. Tout ce que je veux de toi, c'est savoir si tu comprends la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Je comprends,
marmonna Todd. Il avait serré les poings de toutes ses forces pendant cette sortie. Il n'avait pas l'habitude de se faire crier dessus. Quand il rouvrit les mains, il remarqua vaguement des croissants sanglants sur ses paumes. « Cela aurait pu être pire, » se dit-il, mais il y avait environ 4 mois qu'il se rongeait les ongles.
« Bien, alors tu vas faire tes excuses les plus plates et tu vas travailler. Tu vas travailler à l'école quand tu auras du temps libre. Tu vas travailler à l'heure du déjeuner. » Après la classe, tu vas venir travailler ici. Et pendant le week-end, tu vas venir ici et travailler de plus belle.
Pas ici,
souffla Todd.
À la maison.
Non, à la maison, tu vas traîner et rêvasser comme tu l'as toujours fait. Si tu es là, je peux rester derrière toi pour te surveiller s'il le faut. Et surveiller du même coup mes propres intérêts. Je peux t'interroger. Te faire répéter tes leçons.
Si je ne veux pas venir ici, vous ne pouvez pas me forcer.
Doucender but une gorgée.
C'est vrai. Les choses vont donc se poursuivre comme elles ont commencé. Tu seras recalé. Cet orienteur, ce French,
s'attendra à ce que je tienne ma promesse.
Voyant que non, il appellera tes parents. Ils découvriront que ce brave monsieur Denker a joué le rôle de ton grand-père à ta demande. Ils découvriront les notes falsifiées. Ils...
Oh, la ferme! Je viendrai!
Tu es déjà là. Commence par l'algèbre.
Pas question! On est vendredi après-midi.
Désormais, tu travailles tous les après-midi,
dit doucement Doucender.
« Commence par l'algèbre. »
Todd le regarda un bref instant, avant de baisser la tête pour chercher à tâtons son livre d'algèbre dans son cartable. Et Doucender vit le meurtre dans ses yeux. Pas une figure de style. Un meurtre bien réel. Il y avait des années qu'il n'avait aperçu ce regard noir, brûlant, calculateur. Mais cela ne s'oublie pas. Il pensa qu'il l'aurait vu dans ses propres yeux, s'il y avait eu un miroir le jour où il avait regardé la nuque blanche et sans défense du garçon.
Il faut que je me protège,
se dit-il, légèrement stupéfait.
On sous-estime les risques qu'on court.
Il but son bourbon, se balança et regarda le gamin travailler. Il était presque 5 heures quand Todd rentra à vélo. Il se sentait lessivé, vidé, les yeux brûlants, pleins de colère impuissante. Chaque fois que ses yeux s'étaient écartés de la page imprimée, de ce monde affolant, incompréhensible, foutrement stupide d'ensemble, de sous-ensemble, de paires ordonnées et de coordonnées cartésiennes, la voix tranchante du vieil homme avait résonné. Autrement, il était resté parfaitement silencieux, à part le bruit exaspérant de ses pantoufles heurtant le sol et le grincement du fauteuil à bascule, comme un vautour attendant que sa proie expire. Pourquoi s'était-il mêlé de tout ça? Comment en était-il arrivé là? Il était dans le pétrin, et jusqu'au cou. Cet après-midi, il avait regagné un peu de terrain, une partie de la théorie des ensembles, où il avait salement séché juste avant que le congé de Noël ne tombe avec un clic presque audible. Mais impossible de croire qu'il pourrait en rattraper assez pour réussir de justesse la prochaine compo d'algèbre, même avec un dé. Il restait 4 semaines jusqu'à la fin du monde. En tournant le coin, il aperçut un jet tombé sur le trottoir. L'oiseau ouvrait et refermait lentement le bec, essayant vainement de se remettre sur ses pattes pour sautiller au loin. Le jet avait une aile cassée, et Todd pensa qu'une voiture l'avait heurté au passage et projeté sur le trottoir comme au jeu de la puce. Un des yeux embués était fixé sur lui. Todd regarda l'oiseau un long moment, serrant à peine les poignées de frein sur son guidon relevé. La chaleur du jour diminuait et l'air était presque glacé. Il supposait que ses copains avaient passé l'après-midi à traîner sur le terrain de baseball de Walnut Street, peut-être à jouer un peu l'un contre l'autre, plus probablement à 3 contre 6, ou à la batte à tout va. C'était l'époque de l'année où on se préparait à aborder le baseball. Il y en avait qui parlaient de former leur propre équipe junior pour participer au championnat officieux de la ville. Il y avait assez de paternel pour accepter de les trimballer voir les matchs. Todd, naturellement, serait lanceur. Il avait été le lanceur vedette des juniors jusqu'à l'an dernier. Mais il était trop vieux. Aurait été lanceur. Alors quoi? Il aurait juste à dire non? Il aurait juste à leur dire « Les gars, je me suis ramassé un criminel de guerre. Je le tenais par les couilles et puis... de quoi mourir, les gars. Je me suis rendu compte qu'il me tenait les couilles aussi fort que moi les siennes. Je me suis mis à avoir de drôles de rêves et des sueurs froides. Mes notes ont dégringolé et je les ai changées sur mon bulletin pour que mes vieux ne le voient pas. Et maintenant, faut que je potasse vraiment dur pour la première fois de ma vie. Pourtant, j'ai pas peur de me faire saquer. J'ai peur d'aller en maison de correction. Et voilà pourquoi je ne peux pas jouer avec vous sur le terrain cette année. Vous voyez ce que c'est, les gars. » Un mince sourire, très proche de ceux du vieil homme, et sans aucun rapport avec son large sourire de jadis, effleura ses lèvres. Un sourire sans soleil, venu de l'ombre. Sans joie non plus, sans assurance. Un sourire qui disait seulement « Vous voyez ce que c'est, les gars ?» Il fit avancer son vélo sur le jet avec une lenteur exquise, écoutant le froissement parcheminé des plumes et le craquement des petits os creux qui se brisaient. Il fit marche arrière pour repasser dessus. L'oiseau tressaillait encore. Il recommença. Une plume ensanglantée collée au pneu avant montait, redescendait, montait encore. L'oiseau ne bougeait plus. L'oiseau avait cassé sa pipe. L'oiseau était crevé. L'oiseau avait rejoint la grande volière du ciel, mais Todd continua à repasser d'avant en arrière sur le cadavre broyé. Il continua pendant près de 5 minutes, le visage crispé sur le même sourire. « Vous voyez ce que c'est, les gars ?»